Vous écoutez France Culture.
Suite ce mardi d'une semaine sur les stoïciens dans les nouveaux chemins de la connaissance. "24 heures, mais 3 années, presque jour pour jour, séparent pourtant l'émission d'hier de celle d'aujourd'hui, puisque bien malgré nous, il nous a fallu entamer cette semaine par la rediffusion d'une émission sur Sénèque et son traité de la brièveté de la vie, enregistré en juin 2006. C'est donc, en un sens, avec l'émission de ce soir, sur l'ancien stoïcisme, que les hostilités, si j'ose dire, commencent pour de vrai. Et c'est Frédérique Ildefonse, directrice, nouvelle directrice de recherche au CNRS, auteur d'un livre sur les stoïciens, aux belles lettres, qui nous accompagne pour 50 minutes et nous guide dans les arcanes de Zénon de Citium, Cléante et Chrysippe. Le monde de l'ancien stoïcisme est un univers magique et intelligent. Un monde sans vide ni atome, où le temps et les principes sont corporels, où toute idée naît de la sensation, où l'âme elle-même n'est qu'une manière d'être. C'est un monde éternel, animé par un souffle, pris dans un cycle incessant de génération et de destruction. Un monde où la lune est plus grande que la terre, où le soleil est un flambeau et le feu un artiste qui assure la croissance des vivants. Ici-bas, les astres sont des êtres animés, les dieux eux-mêmes sont corruptibles et, par un mélange intégral, une goutte de vin jetée dans la mer peut s'étendre à tout l'océan. Bonjour Frédérique Ildefonse.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Est-ce qu'on peut parler d'immanence à propos du stoïcisme, finalement d'un monde sans au-delà, sans transcendance, sans principe régulateur abstrait, en somme un monde qui serait rendu à son unicité ?
Je crois que oui, le monde est une totalité organique, le logos, c'est une entité organique totalement rationnelle, le fameux logos y est immanent. Donc je crois qu'on a tout à fait raison de parler d'immanence pour ce monde.
Vous avez dit organique et rationnel. A priori, on peut se dire que c'est contradictoire, en un sens. On peut, ou alors, c'est peut-être là l'intuition première du stoïcisme qui justifierait chez eux que plus tard, l'esprit et le corps, l'esprit se corporéise et le corps se spiritualise. Est-ce que le fait de le tenir à la fois pour un organisme et en même temps pour parfaitement rationnel n'est pas finalement contradictoire, ou en tout cas, est-ce que ça ne fait pas la singularité du stoïcisme ?
En fait, j'y suis tellement habituée que je ne vois même plus la contradiction, je crois. Le monde est un vivant. Peut-être j'aurais dû commencer par dire vivant. Donc je ne vois pas vraiment la contradiction, en effet, parce que ce logos est un souffle qui circule. Donc tout est pris dans ce mouvement immanent de la rationalité qui caractérise la vie. Et il me semble que les stoïciens reprennent d'ailleurs, à partir du sophisme de Platon, une revendication qui était que si on a quelque chose comme un être universel, en grec, dans le sophisme, c'est le panthelos on, on ne va pas le laisser là quand même statique, sans bouger. Et donc, il y a la vie du logos qui anime le cosmos tout entier.
Mais c'est intéressant, vous parlez de logos, vous parlez de logos. Or, en général, hein, je parle ici, disons, l'idée reçue, c'est que le logos, ben, c'est le discours, hein, c'est la parole. Or, vous en parlez comme d'un vivant, c'est en ce sens-là peut-être qu'il peut y avoir, sans parler de contradiction, peut-être une surprise, un étonnement en tout cas.
Donc vous avez tout à fait raison de dire qu'en effet, tout le monde n'est pas doué de logos. Par exemple, tous les vivants ne sont pas normalement considérés comme doués de logos au sens du raisonnement, du discours, etc. Il y a les allogas, ceux qui n'ont pas de logos, et les personnes, enfin ce qui est logikos, ce qui est doté de logos. C'est que là encore, probablement pour y avoir séjourné un peu, Je retrouve la caractéristique stoïcienne qui, en effet, fait miroiter le logos dans toutes les, surtout sous toutes les facettes de sa polysémie. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui
facette rationnelle, voilà, facette didactique,
facette rationnelle, facette argumentative, facette discursive, qui est très importante dans le stoïcisme.
Et puis vitale, organique.
Oui.
C'est la même affaire, donc.
Oui. Et c'est ce qui fait de l'univers, en effet, une totalité causale parfaitement ordonnée et sans vide intérieur. C'est-à-dire le seul vide que les stoïciens admettent, c'est le vide qui est autour de l'univers, qui en lui-même est totalement cohérent, totalement communicant.
Mais comment le monde peut-il être dans cette plénitude, cette absence de vide, hein, cette unicité, finalement, ce monde qui est à lui-même tout ce qu'il peut être, disons, hein. Et en même temps, comment peut-il être à la fois cela et bordé par du vide? Comment peut-il y avoir un au-delà, fût-ce le vide, à un monde qui est pourtant un univers unique? Est-ce que ça n'est pas contradictoire? Est-ce que, en somme, cet univers infini n'interdit pas en un sens qu'on lui donne des bornes, fût-ce celles du vide?
En fait, le vide ne borne pas tant le monde qu'il ne le borde. Je ne cherche pas à faire un jeu de mots, mais c'est vrai. Et en fait, l'infini en question, en fait, c'est quelque chose qui est un tissu de détermination. C'est un tissu déterminé de détermination.
C'est-à-dire ?
Je ne sais pas comment dire plus. C'est-à-dire que c'est une totalité qui est définie par une articulation très très longue d'être eux-mêmes déterminés. Et là, tout de suite, en fait, on en vient à quelque chose de caractéristique du stoïcisme, c'est-à-dire que on doit considérer la nature commune et on doit considérer aussi les natures propres. Et en fait, les natures propres, c'est ce qui permet de définir qu'il y ait des individus. Et ces individus, en même temps, sont articulés les uns aux autres dans un tissu rationnel qui est le monde.
Alors donc, y a-t-il une différence entre les natures propres et la nature commune? Pour prendre un exemple qui est plus familier peut-être chez Spinoza, il y a la nature naturante et la nature naturée qui sont en somme deux façons de regarder le monde, soit sous l'angle de sa production, hein, nature naturante, soit sous l'angle de ses effets, qui serait la nature naturée. Mais ce sont finalement les mêmes choses que l'on regarde. Est-ce qu'ici, quand vous parlez des individus ou des natures, je ne sais plus comment vous dites, des natures singulières, je ne sais plus...
Nature. On demandera à l'auditeur. Propre, hein, nature commune et nature propre.
Alors voilà, est-ce que cette différence entre nature commune et nature propre reconduit finalement la grande différence, enfin reconduit, précède la grande différence stoïcienne entre nature naturante et nature naturelle, entre production et effet?
Encore une fois, il y a cohérence entre les deux. C'est-à-dire il y a l'ordre général de l'univers, qu'on peut appeler nature commune, mais cet ordre général, comme le logos, anime tous les êtres singuliers qui sont définis par une nature propre. Il y a tout... Et quand les stoïciens parlent du vivre conformément à la nature, il est clair que les deux natures sont concernées, si j'ose dire.
Alors on va revenir hein, sur le vivre conformément à la nature avec vous, Frédéric Ildefonse. Encore une chose, peut-être pour poser la question plus simplement, ces natures singulières sont donc inscrites dans la nature commune. Elles ne s'en distinguent pas. Est-ce qu'on peut dire qu'elles la composent? Est-ce qu'en somme, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une nature commune antécédente, préalable aux natures singulières, une sorte de volonté qui précéderait le déploiement de ces natures singulières, ou est-ce qu'en somme c'est la même affaire?
En fait, je reprendrai la manière dont, enfin, Goldschmidt dans le système stoïcien.
Ça, c'est Georges Arthur Goldschmidt. Hein, voilà. Il faut le citer, autrement appelé Gag d'ailleurs, par ceux qui l'ont un peu lu, spécialiste des stoïciens. Allez-y.
Voilà, il parle vraiment d'un totasimul, c'est-à-dire vous avez en même temps les individus qui en effet composent l'univers, qui sont singuliers, qui sont définis par une qualité propres et qui en ce sens sont déterminés, et vous avez le fait qu'ils sont immédiatement pris dans le tissu rationnel de la nature qui les englobe.
Alors vous avez parlé de vivre conformément à la nature, qui est peut-être le premier précepte des stoïciens, précepte d'ailleurs qu'on a cru retrouver quand Montaigne parlait de vivre à propos, alors que peut-être les choses sont un petit peu différentes. C'est ce qu'on appelle, arrêtez-moi si je me trompe, hein, le catéchon. qui résumerait peut-être le fait de dire, voilà, faire ce qu'il convient de faire. Est-ce que ce mot-là vous semble désigner ce vivre conformément à la nature et que signifie d'ailleurs ce qu'il convient de faire, Frédéric Ildefonse?
En fait, là, il y a plusieurs choses déjà, c'est-à-dire que le vivre conformément à la nature, le vivre conformément déjà au départ, c'est-à-dire chez Zénon, c'est ce qui définit le télos de l'éthique.
Zénon, c'est le tout premier. Hein.
Oui, Zénon du Citium, en effet fondateur du stoïcisme. Ceux qui suivaient ses cours sous le portique coloré ou portique peinturluré ou portique des couleurs.
Portique, c'est stoa.
Voilà. Mais on disait au départ, on parlait au départ de la stoa poikile. Donc c'était un portique peinturluré. Donc ceux qui suivaient ces cours se sont d'abord appelés zénoniens et très vite stoïciens. Et d'ailleurs, on peut parler de ça, hein, c'est-à-dire qu'on parle des épicuriens, on parle des platoniciens, on parle des aristotéliciens, on parle des stoïciens.
Et non pas des zénoniens.
Par exemple, ça s'est arrêté très vite. On ne parle pas des cléantiens et des
chrysippéens. Oui, c'est ça, voilà. Zénon, Cléante et Chrysippe sont les trois penseurs qui nous occupent aujourd'hui. C'est ceux qu'on désigne communément comme les trois figures cardinales de l'ancien stoïcisme.
Alors, il y a plus de monde, bien sûr, mais c'est vrai que les trois premier scolarque du stoïcisme sont d'abord Zénon de Citium, ensuite Cléante d'Assos, ensuite Chrysippe de Sol. Oui, Zénon a fondé le portique. Cléante avait ensuite qui lui a succédé, avait la réputation d'être un être un peu lent. Très religieux, on lui doit la fameuse hymne à Zeus.
On va y venir, oui.
Chrysippe, au contraire, apparaît avoir été un esprit extraordinairement acéré, très grand dialecticien, et on parle de lui comme vraiment le refondateur du stoïcisme, c'est-à-dire qu'il a vraiment, marqué cette école. C'était un travailleur acharné, il écrivait chaque jour. Et c'est
on
vraiment...
lui doit, oui, plus de 700 livres, raconte l'histoire, hein, ou la légende. Livres, d'ailleurs, dont la plupart étaient des compilations de citations. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Montaigne, dans les essais, Montaigne, dont on parlera la semaine prochaine dans Les Nouveaux Chemins, dans ses essais, se moque de Chrysippe et des farcissures dont il grossit ses ouvrages, alors que lui-même, d'ailleurs, Montaigne fait la même chose.
En tout cas, il en reste fort peu. Ce qui est une ironie extraordinaire du sort, c'est-à-dire que, comme on sait, il ne reste plus que des fragments de ces personnages qui, donc pour Chrysippe, avaient beaucoup écrit, ce qui amène ceux qui travaillent les stoïciens à travailler d'une manière un peu particulière.
Effectivement, et en particulier quand on travaille sur l'ancien stoïcisme, il ne reste quasiment plus rien de Zénon, on connaît l'hymne à Zeus de Cléante et quelques autres bribes, les textes de Chrysippe qui ont été rassemblés par Richard Dufour dans une édition, le nom de l'éditeur m'échappe, on mettra ça en ligne, donc le volume est très, très volumineux, mais en somme il y a assez peu d'informations spécifiques à Chrysippe. Sur quelle matière avez-vous travaillé pour essayer de construire votre ouvrage où vous envisagez Zénon, Cléante et Chrysippe de manière tout à fait logique, didactique, Frédéric Ildefonse?
En fait, on travaille sur les témoignages, on travaille sur les doxographes, on travaille sur... Alors, le problème, c'est qu'on travaille sur des témoignages dont on ne peut pas forcément être sûr de la qualité.
Oui, il faut tenir ça pour la vérité.
C'est-à-dire que parfois, l'affaire est faussée, parfois l'affaire est un peu malveillante. Plutarque, par exemple, parfois est un peu de mauvaise foi dans les contradictions des stoïciens. Donc on travaille avec ce bouger, on a quelques textes qui sont reconnus comme extraordinairement précieux et tout à fait fiables. Par exemple, le livre 7 de Diogène Laërce, c'est vraiment un témoignage très très important pour qui travaille sur la logique stoïcienne particulièrement, mais enfin aussi sur la physique et l'éthique.
Alors effectivement, hein, il y a des témoignages qui sont autant de survivance, mais enfin, travailler sur l'ancien stoïcisme, c'est un peu... Il y a un an et demi, Les Nouveaux Chemins recevaient Jean Lévy pour parler de Lao Tzu. Et on avait passé un quart d'heure, Jean Lévy nous expliquait que pourquoi, selon lui, on n'était sûr de rien. Ni que Lao Tzu avait écrit les textes, le Tao Te Ching, ni qu'il était donc véritablement l'auteur de ces textes, ni d'ailleurs qu'il avait véritablement existé, et que finalement la matière même sur laquelle on travaillait était une matière tellement mobile qu'elle était d'abord propice à la poésie plutôt qu'à plutôt qu'à l'érudition. Or, sans vous offenser, votre livre n'est pas un ouvrage de poésie.
Vous avez totalement raison.
C'est un ouvrage tout à fait érudit sur les stoïciens, Frédéric Ildefonse, et vous insistez véritablement sur des détails et des structures de pensée, notamment par exemple le fait que la logique précède l'enseignement de la physique chez les anciens stoïciens. Autant de détails tout à fait particuliers dont on se demande d'où vous les avez tirés et comment vous avez fait.
Encore une fois, on a des témoignages qui sont tout de même abondants, et on a la chance, du point de vue éditorial, d'avoir depuis un certain temps tout de même, une traduction française du travail considérable de Longue et Sedley. Donc on a là une traduction par Jacques Brunschvicg et Pierre Pellegrin, de la traduction anglaise de Longue et Sedley, The Hellenistic Philosophers. Et là, on est heureux avec ça. Il y a aussi une édition allemande qui est plus précisément sur la dialectique stoïcienne, une édition de Hülser. Donc, Il y a beaucoup de fragments. L'affaire, c'est de se frayer un chemin dans les différentes inflexions des témoignages.
Et de combler les vides dans une doctrine qui pourtant bannit le vide. Frédéric Ildefonse, j'en reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Le catéchone, c'est quoi?
Ce qu'il
convient de faire. Parce que allons aussi, évidemment, dans les faits. Après tout, le stoïcisme débouchera en particulier avec Épictète. On le verra jeudi avec Thomas Benhatoul. Mais avec Épictète et Marc Aurèle, débouche sur une pratique, une philosophie qui se donne d'emblée comme une pratique. Là, on a les textes et on sait ce que ça vaut. Que désigne le catéchone, c'est-à-dire ce qu'il convient de faire, qu'on a identifié à la parole de Zénon, le premier des stoïciens?
Alors, l'affaire, c'est que la moralité stoïcienne est extrêmement exigeante. Et en fait, qu'elle se définit plutôt comme une morale de l'action droite, qu'on appelle en grec katortoma. On reconnaît le grec orthos, qui signifie droit. Et cette morale est très, encore une fois, très exigeante, c'est-à-dire soit vous êtes dans la moralité, soit vous n'y êtes pas. Et il n'y a pas de place au progrès. Cette moralité se définit précisément par une conformation active à la nature entendue comme logos. Le catéchone...
C'est intéressant quand même le concept de conformation active.
Oui.
C'est-à-dire qu'on doit activement se soumettre finalement à ce que la nature nous...
Précisément dans la mesure où on se conforme activement, on ne se soumet plus. C'est plutôt une reprise active que le fait de se soumettre. Donc, en tout cas, la moralité stoïcienne n'a rien à voir avec une renonciation ou en effet, une manière d'abdiquer par rapport à quelque chose de supérieur et qu'on ne pourrait pas infléchir. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme un sursaut.
Il y a quand même déjà à l'œuvre dans l'ancien stoïcisme la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, non ?
Oui.
On retrouvera ensuite chez Épictète, chez Marc Aurèle, formalisé, formulé, ou chez Sénèque d'ailleurs. Mais il y a déjà chez les vieux quelque chose qui relève d'une différence entre ce que je peux faire et ce qu'il m'est interdit de...
Justement, et pardon, je m'éloigne toujours de votre catéchone, mais je vais y revenir à un certain moment. Vivre en conformité, ça c'était la première formule, la formule de Zénon. Vivre en conformité avec la nature, qui était la manière dont ça s'est complété chez Cléante et Chrysippe, plutôt pour Chrysippe, vivre conformément à l'expérience des événements. Alors en effet, ce qui dépend de moi par rapport à un événement, c'est précisément, je le dirais en des termes un peu extérieurs, d'être digne de ce qui arrive. Et cette dignité, ça a à voir précisément avec certainement pas le fait de si l'événement est malheureux, certainement pas, ça n'a pas à voir avec le fait de courber les chines, ça a à voir avec le fait de reprendre activement l'événement, parce que ce qui me définit, c'est d'être, en étant cette qualité propre, c'est d'être également une puissance active.
C'est-à-dire, en somme, c'est la condition de mon activité, c'est mon aptitude à adhérer.
Oui, mais comment dire, cette adhésion, dans la mesure où c'est une adhésion active, met en jeu une puissance qui m'est propre. C'est-à-dire que l'objet n'est pas, certainement pas de choisir ce qui m'arrive. L'objet, s'il y a une liberté stoïcienne, c'est certainement pas, elle ne se définit certainement pas par la capacité que j'aurais de décider une action quelconque. mais elle consiste dans ma manière de me comporter à l'égard de l'événement. L'événement, c'est drôle parce que c'est pas vraiment un concept stoïcien. Il y a un mot qu'on peut traduire comme ça, mais en fait c'est plutôt un concept qu'on a qui commente le stoïcisme plutôt qu'il ne le traduit. L'événement, c'est vraiment ce qui arrive, c'est vraiment ce qui permet de décider de mon attitude morale. C'est-à-dire mon attitude par rapport à l'événement, c'est ce qui permet de décider de ma moralité ou de ma non-moralité.
Alors il faut pour cela probablement en venir à ce que les stoïciens pouvaient dire de Dieu et à ce qu'ils pensaient de Dieu. On va entendre tout de suite d'ailleurs Jean Brun, qui est l'auteur du premier Que sais-je sur le stoïcisme, dans un entretien avec Philippe Nemo en 1979, dans lequel il parle du Dieu des stoïciens, expliquant d'ailleurs que pour lui, vivre en accord avec la nature, hein, donc le fameux catéchon, en tout cas vivre comme il convient, c'est très exactement vivre en accord avec Dieu. Et puis ensuite on entendra l'hymne à Zeus de Cléante qui a succédé à Zénon à la tête de la première école des stoïciens.
Les stoïciens identifient Dieu et le monde. Ce sera plus tard, au fond, le Dieu ou la nature de Spinoza. Il faut bien voir que cette formule est, elle aussi, à double entrée. On peut dire que les stoïciens ont voulu diviniser le monde, comme on peut dire qu'ils ont voulu naturaliser Dieu. Et encore, il faut répéter la fameuse formule, vivre en accord avec la nature, ce sera en définitive vivre en accord avec Dieu. Par conséquent, Dieu, c'est à la fois le monde, c'est aussi, disent-ils d'une façon curieuse, un feu artiste qui a procédé à la fabrication du monde. Dieu, c'est aussi un vivant raisonnable, un vivant parfait, un vivant intelligent.
Je chanterai et célébrerai ta puissance à jamais. C'est à toi que tout cet univers qui tourne autour de la terre obéit où tu le mènes, et de bon gré il se soumet à ta puissance. Tant est redoutable l'auxiliaire que tu tiens en tes mains invincibles. Le foudre à double dard, fait de feu, vivant à jamais, sous son choc frémit la nature entière. C'est par lui que tu diriges avec rectitude la raison commune qui pénètre toutes choses et qui se mêle aux lumières célestes, grandes et petites. C'est par lui que tu es devenu ce que tu es, roi suprême de l'univers, et aucune œuvre ne s'accomplit sans toi, ô divinité, ni sur terre, ni dans la région éthérée de la voûte divine, ni sur mer, sauf ce qu'accomplissent les méchants dans leur folie. Frédéric Ildefonse est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi, dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à la pensée stoïcienne, au stoïcisme. C'est d'ancien stoïcisme que nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire Zénon, Cléante et Chrysippe. On a parlé un peu de Zénon, le fondateur du portique peinturluré, auquel on doit le nom de stoïcisme. Parlons de son successeur, le très borné Cléante, à qui l'on doit pourtant un hymne à Zeus tout à fait étonnant et qui peut-être d'ailleurs permet de comprendre ce que dit Jean Brun quand il explique que Dieu c'est à la fois le monde et en même temps c'est un feu artiste, c'est à la fois le vivant, la vie même, et en même temps c'est un être raisonnable. En somme, on a le sentiment que les stoïciens jouent sur les deux tableaux, de l'immanence et puis d'une volonté antécédente, divine et bienveillante. Frédéric Ildefonse.
C'est sûr qu'il y a de la providence, c'est sûr qu'il y a de la providence.
Comment il peut y avoir de la providence s'il n'y a qu'un seul monde ?
C'est que simplement, comment dire, on pourrait dire une chose, c'est que à de multiples égards, la nature nous a bien dotés. Et à propos de ce que vous disiez sur la logique tout à l'heure, elle nous a particulièrement bien dotés, enfin pas particulièrement, elle nous a bien dotés sur beaucoup de registres, mais elle nous a bien dotés en nous donnant le premier accès qui est le point de départ de la théorie de la connaissance, le premier accès à la réalité, qui est ce que les stoïciens appellent fantasia, la représentation. Représentation, soit dit en passant, c'est une traduction traditionnelle de fantasia. Il ne faut pas du tout mettre quoi que ce soit derrière le re de représentation. Ça pourrait très bien être traduit autrement, simplement c'est une traduction qu'on reprend inlassablement. Mais en fait, ce qu'il faut entendre, c'est fantasia, où, en fait, il faut entendre le verbe qui signifie manifester. Et la représentation, c'est un pathos dans l'âme, une affection dans l'âme, donc quelque chose que l'âme humaine... Bon, les animaux aussi ont des représentations, mais pas les mêmes. On pourra y revenir. Donc, c'est un pathos dans l'âme. L'âme humaine est affectée. Et dans cette affection, la représentation... donne l'objet qu'elle représente et elle se donne elle-même comme représentation.
Je comprends pas.
Ah.
Excusez-moi.
Alors,
je le dis à l'unisson de nos auditeurs, il faut qu'on comprenne ce que vous dites.
Allez-y,
Frédéric Guildefont, c'est très important, justement.
C'est très important d'en venir à la théorie de la représentation. Donc, je suis dans le monde, j'ai des sens. Il se trouve que nous, on est humains, donc on est des personnes logikoi, on est doués de logos. Mais en tout cas, le premier accès que j'ai à la réalité se fait par représentation. Ma sensation procède par représentation. J'ai une affection dans l'âme qui me donne l'objet de ma sensation. Et les stoïciens insistaient sur le fait que dans le mot fantasia, il fallait entendre l'origine fausse, qui veut dire la lumière, et que donc, de même que la lumière se donne à voir elle-même et l'objet illuminé, de même la représentation me donne l'objet et se donne elle-même à moi.
Et dans ces conditions, alors, quel usage faire de mes représentations ? Épictète, plus tard, dira « Tout le malheur des hommes ne vient pas tellement de ce qu'ils arrivent, de ce qui leur arrive, mais du rapport qu'ils entretiennent à ce qui leur arrive. » En somme, du décalage entre l'événement et la représentation qu'ils en ont. Alors d'abord, est-ce que c'est finalement le même mot qu'Épictète a en tête ?
Oui, tout à fait.
Et puis, est-ce que c'est... Voilà, est-ce que de ce que vous dites de la représentation, on en tire l'idée toute simple qu'en somme, il appartient à tout un chacun de subir ou de ne pas subir ce qui lui arrive?
Alors, du point de vue de la représentation, non. C'est-à-dire qu'on a des représentations, on les subit, c'est comme ça que la sensation commence, enfin c'est comme ça que nos sens nous donnent les objets. Il faudrait revenir au mot d'objet aussi, peut-être qu'on pourra le faire. Et ça, c'est un pathos qu'on ne peut pas empêcher. Et c'est très bien de ne pas l'empêcher parce que c'est le point de départ de la connaissance. Autre chose est la passion. Et là, on sera dans le champ éthique. Là, quand je parle de la représentation, je parle de la logique et je parle de la théorie de la connaissance. Et donc, le point de départ, c'est la représentation. Et ensuite, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de ça à présent, la connaissance se développe à partir de la représentation dans un certain ordre et dans un ordre qui va de cette donation initiale à une reprise active, puis une stabilisation scientifique.
C'est ça. Est-ce qu'on peut considérer qu'en somme, plus je connais, plus je comprends finalement tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrive, plus j'en ai l'intelligence, et que de ce point de vue, en somme, toute connaissance est un déploiement de mon activité, une inscription plus volontaire dans le monde et une façon peut-être de, alors pour le dire vulgairement, de mieux vivre ma vie.
Alors, le fait est que là, moi, toujours encore une fois, quand je parle de la représentation, je me situe plutôt sur le plan de la théorie de la connaissance.
Est-ce qu'il faut la distinguer de l'action ?
Oui. Parce que la représentation, si vous voulez, c'est le point de départ d'un processus qui va passer ensuite par une reprise active que les stoïciens appellent assentiment, ou non d'ailleurs. Hein. Enfin, je vais donner ou je ne vais pas donner mon assentiment à une représentation que j'ai reçue, en fonction justement de sa qualité. Et les stoïciens faisaient une classification des représentations. Et ce à quoi je pouvais donner mon assentiment de manière certaine, c'était ce que les stoïciens appelaient une représentation compréhensive. Et vous avez tout à l'heure employé le mot de comprendre. Alors là, je le reprends. Vous avez tout à fait raison de l'utiliser à ce moment-là. Simplement, encore une fois, moi, je suis sur le registre de la théorie de la connaissance. Donc, il s'agit, à partir d'une information qui nous est donnée par représentation et qui vient des sens, d'accepter cette représentation, pourvu qu'elle soit compréhensive, d'en venir alors à une saisie, à une compréhension ou une catalepse. Donc, c'est vraiment le mot de compréhension. Et ensuite, le processus de la science consisterait à venir stabiliser encore cette catalepse dans un processus scientifique.
Il faut toujours se faire une définition ou une description de l'objet qui se présente dans la représentation afin de le voir en lui-même, tel qu'il est en son essence, dans sa nudité, dans sa totalité, dans tous ses détails, et se dire à soi-même le nom qui lui est propre et le nom des parties qui le composent et dans lesquelles il se résoudra. C'est Marc Aurèle qui dit ça dans ses Pensées pour lui-même. C'est Marc Aurèle. De ce point de vue, Marc Aurèle est l'interprète parfait de ce que vous dites.
Tout à fait. Et bon, moi, je
il s'agit
dois...
de conquérir l'objectivité, en somme.
Oui, et je dois à l'enseignement de Claude Imbert d'avoir vraiment insisté sur ce fait, c'est-à-dire que...
Rappelons ici que Claude Imbert, c'est Madame Claude Imbert qui enseigne à l'École normale supérieure, et non pas Monsieur Claude Imbert qui enseigne au point. Allez-y, Frédéric Ile-de-France.
Je dois à son enseignement ceci et bien d'autres choses d'ailleurs, mais ceci, à savoir qu'on peut lire le stoïcisme impérial... et y lire le stoïcisme ancien. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que, d'un coup, le stoïcisme ancien a disparu dans le stoïcisme impérial. Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se prolongent, il y a des choses qui sont absolument bien comprises et bien interprétées. Et en effet, par rapport à ce que vous disiez, en revanche, sur ce qui m'arrive, là, on est plutôt dans le registre soit de l'adhésion aux événements, soit aussi dans le registre de l'action. Que voulais-je dire à ce moment-là ?
De la connaissance à l'action ?
Oui, non, ben voilà, c'est-à-dire j'ai oublié la fin de ma phrase, c'est assez fréquent.
Peu importe, Frédéric Ile-de-France, l'essentiel est de comprendre, en l'occurrence, ce que Marc Aurèle voulait dire quand il parlait de cette conversion, finalement, d'une affection en objectivité.
Oui, alors voilà, ça y est, j'ai retrouvé, aussi classique. C'est-à-dire que quand vous parliez, quand vous citiez Marc Aurèle et quand vous parliez de ce qui m'arrive, ce qui est très très important dans le champ de l'éthique, c'est d'en rester à l'analyse des représentations et d'en rester à la représentation. Et bien du malheur procède du fait que nous n'en restions pas à la représentation et à son analyse, mais que nous y ajoutions du commentaire ou du jugement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, qui est beaucoup dit chez Épictète et chez Marc Aurèle.
On retrouve chez les stoïciens l'idée qu'il ne faut jamais vivre les choses sur le mode de la pesanteur, ou qu'il est une façon de vivre les choses qui en atténue, qui en allège la pesanteur.
Alors, pesanteur, c'est vrai que...
Au sens d'une contrainte, d'une coercition, d'un écrasement de l'individu par quelque chose de plus fort que lui.
Non mais bien sûr, la question c'est que évidemment quand on entend qu'on va enlever de la pesanteur, on pense à de la légèreté. Or, je ne dirais pourtant pas qu'il y a vraiment de la légèreté en jeu pour l'attitude éthique stoïcienne. En revanche, je pense à une phrase de Deleuze qui a écrit dans La logique du sens de manière admirable sur les stoïciens et qui dit qu'il y a dans chaque événement, fût-il malheureux, une splendeur qui sèche le malheur.
Rien n'assèche mieux ni plus le malheur que quelques mesures des Beatles. En particulier quand on parle d'ancien stoïcisme en votre compagnie, Frédéric Ile-de-France. On est mardi dans les nouveaux chemins de la connaissance et c'est du stoïcisme que nous parlons. On va de l'ancien stoïcisme jusqu'au stoïcisme impérial, c'est-à-dire au fond jusqu'à la vie quotidienne. Puisque le propre du stoïcisme est d'être cette doctrine qui se veut, qui veut être convertie justement en pratique quotidienne. C'est très frappant avec Épictète et Marc Aurèle. Aujourd'hui, nous parlons de Zénon. de Cléante et de Chrysippe. Alors, il y a quelque chose de très amusant avec les stoïciens, c'est la façon dont ils meurent. Montaigne lui-même voulait s'en inspirer en expliquant qu'il souhaitait que la mort le trouve en train de planter ses choux. Zénon, lui, est mort en frappant la terre de ses mains et en récitant un vers de Niobé. « J'arrive, pourquoi m'appelles-tu ? » Et Chrysippe, lui, la légende raconte qu'il est mort de rire en voyant un âne manger des figues ou en proposant de boire du vin à cet âne qui mangeait des figues. Frédéric Ildefonse.
Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas de solution vraiment. Si énigme il y a, je n'en connais pas le ressort. C'est invraisemblable.
Oui, mais en même temps, mourir de rire, c'est quand même mourir en riant.
Ah,
Montaigne, dont on va parler la semaine prochaine, dit bien que un homme ne sait s'il a été heureux qu'au moment de mourir. À quoi sert d'avoir été heureux toute la vie si on meurt inquiet ? En l'occurrence, les stoïciens meurent en riant. Et les stoïciens sont ceux dont la philosophie consiste à apprendre à mourir aussi.
Oui. C'est, par ailleurs, mourir en riant, c'est certainement une belle mort. La question, c'est pourquoi a-t-il tant ri de voir un âne manger des figues ? S'il lui proposait du vin, c'est qu'il pensait que c'était un repas humain. Qu'est-ce qui est... Comment dire ? Il y a une énigme là, il y a beaucoup d'énigmes dans les scènes stoïciennes. C'est comme l'histoire de Zénon qui se casse le doigt et qui ensuite dit qu'il vient, qu'il ne fallait pas l'appeler. Il y a des énigmes, c'est comme les scénographies stoïciennes sur les parties de la philosophie. Il y a des scènes, c'est très caractéristique, c'est-à-dire... C'est tout de même pas très fréquent de penser à comparer la philosophie à un œuf.
Qui fait ça ?
Mais les stoïciens, justement. Les stoïciens comparent la philosophie à un œuf et ils disent que, il ne faut pas que je me trompe, là, que la logique est la coquille et l'éthique le blanc, la physique le jaune. Et puis, bon, certains se disputent et disent que c'est l'inverse. Ou ils comparent la philosophie à un animal en disant que l'os et les muscles, c'est la logique, que les parties charnues, c'est l'éthique, et que l'âme, c'est la physique. Ou bien il compare également la philosophie à un champ fertile ou un champ en pleine production. Donc pareil, l'enceinte logique, les fruits, l'éthique, et la physique, les arbres. Donc c'est des choses très belles et très, qui marquent de manière très particulière, comme par exemple la comparaison de l'âme à un poulpe. C'est quand même assez particulier. Et encore une fois, ce que j'ai appris de Madame Claude Imbert, c'est qu'il fallait toujours prendre ces métaphores stoïciennes au sérieux.
En particulier chez Sénèque, qui est quand même l'inventeur de l'idée qu'il faut consommer les choses avec modération, par exemple. Ce qui est une autre façon de prendre au sérieux, justement, les métaphores. C'est très amusant, parce qu'à mesure que vous parlez, vous ne pouvez pas les voir, hein, Frédéric Ildefonse, mais derrière vous, Daniel Finot, Fabien Eliès et Adèle Van Rett, bien à l'abri dans leur anonymat désormais révolu, rient de bon cœur en vous écoutant comparer l'âme à un poulpe.
C'est formidable.
Mais c'est merveilleux, c'est vrai qu'on rit beaucoup.
J'aimerais bien parler un tout petit peu de cette âme poulpe.
Allez-y, je vous en prie.
Alors, en fait, poulpe, C'est en particulier parce qu'elle a 8 parties. Les 5 sens, que je ne vais pas dénombrer pour éviter d'en oublier un. La partie attachée à la reproduction ou spermatique. La partie attachée à la voix ou phonétique, phonéticone. Et la partie dirigeante ou hégémonicone, la partie hégémonique.
Allez-y. La partie hégémonique, c'est-à-dire ?
La partie hégémonique, c'est... Alors là aussi, c'est une histoire compliquée. La partie hégémonique, c'est la partie dominante dans l'âme, où les stoïciens, d'une certaine manière, s'inscrivent dans une tradition philosophique. Ça, j'en ai peut-être pas assez parlé, du fait que les stoïciens s'inscrivent dans une tradition philosophique, même s'ils critiquent les uns ou les autres sur certains points. C'est-à-dire la tradition dans laquelle il y a dans l'âme, une partie qui domine. Donc là,
dans quelle mesure le poulpe permettrait-il, ou la composition tentaculaire du poulpe permettrait-il d'exprimer justement cette hégémonie d'une partie de l'âme sur l'autre ?
Alors, l'hégémonie, enfin, le poulpe, justement, donc si on dit poulpe, c'est parce qu'il y a 8 parties, mais un poulpe également, c'est un être tentaculaire, en effet. Et les stoïciens semblaient penser la sensation sur le modèle en effet de la rétractation des tentacules. C'est-à-dire que pas, des informations sensibles, vous savez, les fameuses représentations, me viennent par les sens. L'âme est un modèle non cloisonné mais communicant dans lequel ces informations circulent. Ces informations circulent jusqu'à ma partie dominante qui les renvoie éventuellement dans les sens.
I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see.
C'est décidément les Beatles qui nous accompagnent aujourd'hui et rien ne pouvait mieux tomber évidemment que Octopus Garden pour commenter cette âme poulpe dont vous nous parlez si bien, Frédéric Ildefonse. Vous êtes notre invité aujourd'hui, l'invité des nouveaux chemins de la connaissance, et c'est d'ancien stoïcisme que nous parlons. On va rester un petit peu sur ce drôle de personnage qui était Chrysippe, celui qui est mort de rire en voyant un âne manger une figue.
Des figues, je crois même. Hein.
Plusieurs, probablement. Restons-en là justement. C'est le même d'ailleurs qui aurait, dans l'un de ses livres, décrit Héra faisant une fellation à Zeus, vraisemblablement. Alors, il y a beaucoup de légendes autour de Chrysippe. La première d'entre elles, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que les 700 livres de Chrysippe sont, pour la plupart, essentiellement composés de citations d'autres auteurs que lui-même. Qu'est-ce que ça signifie, ça, dans sa démarche, sa façon de faire ?
Je sais pas exactement. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de tout. Le stoïcisme est une philosophie innovante, mais c'est également une philosophie qui, encore une fois, intègre énormément de traditions. Traditions populaires, traditions littéraires, traditions philosophiques. Et je pense que c'est dans ce caractère à la fois populaire et savant de la philosophie qu'on peut imaginer trouver une réponse. Moi, ce sur quoi je voudrais insister également sur Chrysippe, c'est que donc vraiment, il a été le refondateur du stoïcisme. Sur beaucoup de plans, il a infléchi la théorie zénonienne et cléantienne, Cléante n'ayant pas fait visiblement de très grandes innovations. C'est quelqu'un également qui est un grand logicien, et c'est quelqu'un qui a énormément développé la logique stoïcienne, et qu'il a développé au point que on a pu dire que ça c'était pour la refondation, sans Chrysippe il n'y aurait pas de portique, mais qu'il a développé au point, là je reparle de la logique, qu'en fait des pans entiers de logique stoïcienne se retrouvent ailleurs, et notamment par exemple dans la grammaire.
La fameuse phrase ancienne de Diogène, hein, si les dieux font de la dialectique, c'est d'après Chrysippe. Hein. Et voilà. Chrysippe donc est l'inventeur de la grammaire, la structure sujet-verbe-complément.
Alors, c'est compliqué. Il se trouve qu'en effet, j'ai pas mal travaillé sur cette question. En effet, le lieu logique stoïcien contient des informations qu'on retrouve ensuite reconfigurées chez les grammairiens grecs. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la logique stoïcienne était composée de deux parties, la dialectique et la rhétorique, ce qui est déjà quelque chose. Il fallait savoir aussi que la logique est authentiquement, mais ça je l'avais dit avec les petites scènes, est authentiquement une partie de la philosophie et non pas un outil. Il faut dire aussi que la rhétorique et la dialectique, que cette dialectique stoïcienne se divise en deux parties, une théorie des signifiants et une théorie des signifiés. Et que dans cette théorie des signifiés, dont le point d'ancrage, soit dit en passant, est la fameuse représentation dont je voulais tant vous parler tout à l'heure, le point de départ même de la théorie des signifiés, c'est la représentation. Donc dans cette théorie des signifiés, vous avez un trésor logique et un trésor en matière, en effet, de ce qu'on appellerait de l'extérieur de l'analyse du langage.
Et alors, en matière de morale, Qu'en est-il chez Chrysippe? Et de façon générale d'ailleurs, qu'en est-il chez les stoïciens? Si la liberté repose sur l'aptitude à consentir ou assentir, si on peut inventer un verbe peut-être, à l'ordre des choses, à la bienveillance d'une volonté antécédente et finalement providentielle, quid de l'argument paresseux, ce qu'on a appelé l'argument paresseux, qui fonde sur la fatalité du futur une attitude de démission pratique, qui finalement dit, puisque les choses sont comme elles doivent être, il ne m'appartient pas de contribuer à leur avènement, puisque de toute façon, que je le veuille ou non, j'y contribue. En somme, quelle raison trouve-t-on chez les stoïciens, et déjà chez les anciens stoïciens, quelle raison trouve-t-on d'agir malgré la nécessité qui nous agit et dont nous faisons partie, Frédéric Ildefonse?
Alors, c'est tout le travail de Chrysippe, d'après Cicéron dans le De Fato, d'avoir justement...
De Fato, c'est le texte de Cicéron sur le destin, dans lequel on retrouve évidemment un grand nombre d'informations, en particulier sur Chrysippe.
Donc c'est tout l'effort de Chrysippe de conserver quelque chose comme une liberté, même si ce n'est pas du tout une liberté de type existentialiste, on va dire rapidement, et donc de s'opposer à une théorie qui serait déterministe. Et pour répondre à votre affaire très, très pertinente de l'argument paresseux, il faut bien voir que les stoïciens considéraient qu'il y avait ce qu'ils appelaient des confatalia, c'est-à-dire que la théorie du destin, encore une fois, n'exclut pas mon intervention, c'est-à-dire qu'il y a des événements liés par le destin. C'est-à-dire que je suis malade, dois-je me laisser mourir parce que c'est mon destin d'être malade et donc de mourir? Non. C'est-à-dire que la part active qui me fait aller chez le médecin collabore à l'événement de mon existence.
Est-ce que ça n'est pas en contradiction frontale, ça, avec l'idée d'une providence? Si le destin, c'était tout simplement que les choses soient ce qu'elles sont, et qu'en somme, il n'y a rien à espérer du monde, mais qu'après tout, il n'y a pas là de quoi ne pas entreprendre, pourquoi pas? Mais à partir du moment où les choses sont ce qu'elles doivent être, ce qui est quand même le cas chez les stoïciens, quelle raison ai-je d'agir, fût-ce pour contribuer à un ordre qui, de toute façon, se passerait volontiers de mon action?
En tout cas, pour l'argument paresseux et le malade, si je suis malade, ça ne veut pas dire que nécessairement je doive en mourir sur le champ. Donc, encore une fois, il y a plutôt un réseau d'événements dans lequel mon action a sa place, même si, évidemment, dans ma vie, j'ignore l'issue. Et donc, il y a vraiment une responsabilité active à tenir, et il y a surtout, c'est quelque chose qui développe ce que j'essaie de dire sur les confatalia, les événements liés par le destin, il y a surtout, ce que fait Chrysippe, deux causalités à distinguer. Une causalité, en effet, qui est de l'ordre de ce qui peut me déterminer, et une causalité qui est une causalité qui m'est propre, qui est active. Et alors là, on entre dans l'imagerie, cette fois-ci géométrique, du De Fato, où Chrysippe nous donne un exemple qui peut ou non nous combler, à savoir que si je pousse un cylindre, si une impulsion est donnée à un cylindre, certes une impulsion lui est donnée, mais le cylindre n'en roule pas. Le cylindre, pour autant, roule ensuite de sa propre ouïe, de sa propre force, de sa propre nature. Et c'est cette place qui fait qu'il n'y a pas, c'est cette place dynamique qui fait, encore une fois, qu'il n'y a pas déterminisme.
Il n'y a pas déterminisme. Donc, en somme, on peut, en un sens, résister. On peut le dire comme ça.
Résister...
Par le consentement.
Enfin, résister, ça n'est pas tellement... C'est plutôt collaborer, enfin, mais c'est plutôt... C'est plutôt, encore une fois, affirmer quelque chose qui est de l'ordre de ma ouïs propre dans une situation donnée.
Voilà, c'était téléphoné, c'est trop facile. La chanson de France Gall ne s'appelle pas Collabore, elle s'appelle Résiste. Écoutez.
Que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir.
Un grand merci, Frédéric Ildefonse. C'était un régal de vous entendre. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et par ailleurs l'auteur de « Les Stoïciens » aux belles lettres, hein, un livre dont nous venons de parler, « Zénon, Cléante et Chrysippe », tout un programme. Je signale aussi d'ailleurs les livres suivants, pourquoi pas, hein, « Pierre Hadot, qu'est-ce que la philosophie antique ?» et puis « Diogène Laërce », bien sûr, qu'on peut retrouver maintenant à peu près partout. Et dans un tout autre registre d'ailleurs, dans le calendrier des parutions, je vous signale le petit recueil de Samuel Butler sous la traduction de Monique Bégaud des Contre-vérités, paru chez Rivage. C'est excellent. Pour si peu de bonheur, est-ce que ça... Suite demain d'une semaine sur les stoïciens et sur le stoïcisme dans les nouveaux chemins, je recevrai Jean-François Balaudet qui viendra parler du rapport et de la différence entre stoïcisme et épicurisme. À la technique aujourd'hui, l'épicurien Fabien Eliès, à la réalisation, le stoïque Daniel Finot, assistant et collaboration Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Jennifer Murzo et Florence Malfatto. Et un petit signe de reconnaissance à Igor Kortolitsa, à qui nous dirons au revoir toute la semaine, tant il va nous manquer. France Culture, il est 17h50, tout de suite Albert Jacquard.